Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Une grande fête pour l'ordre de Malte à Rome ce week-end. Des milliers de membres de cet ordre hospitalier sont venus célébrer les 900 ans de la bulle du pape Pascal II. Une bulle qui a officiellement octroyé la souveraineté à l'ordre. À cette occasion, Benoît XVI a rappelé ce samedi matin la dimension éminemment chrétienne de l'ordre de Malte et sa contribution essentielle à la vie de l'Église. Nous entendrons aussi le président de l'Association française de l'ordre de Malte. Nous retrouverons bien sûr aussi nos rendez-vous habituels du samedi, la rubrique Livre pour Dieu, où nous vous parlerons cette semaine des paroles intrigantes de Jésus dans la Bible et puis les commentaires de l'Évangile de ce dimanche. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Des milliers de membres et volontaires de l'Ordre de Malte sont à Rome ce week-end. Venus des cinq continents, ils ont fêté les 900 ans de la bulle pontificale de Pascal II, une bulle qui établissait la souveraineté de leur ordre. Le 15 février 1113, cette bulle plaça l'ordre sous la protection du Saint-Siège, lui permettant ainsi d'élire librement ses chefs, sans interférence de la part d'autres autorités laïques ou religieuses. Après la messe d'anniversaire célébrée ce samedi matin dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone, le pape est venu prononcer un discours devant tous les participants. L'ordre de Malte, qui a su traverser les siècles sans pour autant renier son identité. Benoît XVI a tenu à le rappeler en rencontrant ses hôtes. Le pape a ainsi relu la riche histoire de cet ordre, pas comme les autres, pour mieux en souligner son rôle et sa contribution au sein de l'Église. Le compte-rendu de Bernard de Cotigny.
Votre ordre, depuis sa fondation, s'est distingué par sa fidélité à l'Église et aux successeurs de Pierre, tout comme par sa physionomie spirituelle, caractérisée par un idéal religieux élevé, a souligné le pape, invitant à continuer à cheminer sur cette voie en témoignant de façon concrète de la force transformante de la foi. Car en raison de cette foi, poursuivit Benoît XVI, les apôtres abandonnèrent tout pour suivre Jésus et allèrent dans le monde entier annoncer l'Évangile. En raison de cette foi aussi, au cours des siècles, les membres de l'ordre de Malte se sont consacrés d'abord à l'assistance des malades à Jérusalem, puis à secourir les pèlerins de Terre Sainte exposés à de graves dangers, en écrivant, soulignait encore le pape, des pages lumineuses de charité chrétienne et de défense de la chrétienté. Au XIXe siècle, l'ordre s'est ouvert à des champs d'activité plus vastes, dans le domaine de l'assistance et dans celui du service des malades et des pauvres, mais sans jamais renoncer à ses idéaux originels, en particulier à celui d'une vie spirituelle intense de chacun de ses membres. C'est dans cette direction que doit se poursuivre votre engagement. N'oubliez jamais vos racines, insistait le pape, précisant que l'œuvre des hospitaliers n'est pas une simple philanthropie, mais bien l'expression efficace et le témoignage vivant de l'amour évangélique. L'amour du prochain correspond au commandement du Christ et à son exemple, et pour donner l'amour à ses frères, il est nécessaire de le recueillir au feu de la charité divine, dans la prière, l'écoute de la parole de Dieu et l'Eucharistie. Se tournant vers l'avenir, le pape a conclu que l'ordre de Malte devait continuer à opérer dans la société et dans le monde sur les grandes voies balisées par l'Évangile et rendu une fois encore hommage à cette communauté qui ne vise pas un pouvoir ou une influence de nature mondaine, mais désire exercer sa mission pour le bien intégral de l'homme, surtout envers ceux qui ont le plus besoin d'espérance et d'amour.
Et lors de son homélie, le cardinal Bertone est lui aussi revenu sur la dimension religieuse de l'ordre de Malte. Il a rappelé notamment que la croix à 8 pointes de l'ordre symbolisait les béatitudes évangéliques, mais aussi les 8 vertus que les chevaliers sont tenus d'observer, la spiritualité, la simplicité, l'humilité, la compassion, la justice, la miséricorde, la sincérité et la patience. L'ordre de Malte, anciennement ordre de Saint-Jean de Jérusalem, est l'un des rares ordres fondés au Moyen-Âge à être encore actif aujourd'hui. Sa création remonte à 1048. En tant qu'ordre souverain, l'ordre de Malte a son siège général sur la colline de l'Aventin à Rome et jouit du statut de l'extraterritorialité. À ce titre, l'ordre entretient des relations bilatérales avec 104 États dans le monde. Ses activités diplomatiques sont intimement liées à ses actions humanitaires. Sa neutralité et son caractère apolitique lui permettent d'intervenir en qualité de médiateur lorsqu'un État demande son intervention pour régler un différend. L'assistance hospitalière, sans distinction de nationalité, de race ou de religion, reste l'activité principale de l'Ordre de Malte. Mais il est également présent dans l'aide aux populations victimes de conflits, grâce notamment à cette nature indépendante et apolitique. Pour nous en parler, nous avons interrogé Dominique de la Rochefoucauld. Il est le président de l'Association française de l'Ordre de Malte.
Tant qu'il y aura la misère dans le monde, l'ordre aura toujours sa place. Dans une présence auprès des personnes, dans des maisons spécialisées, des hôpitaux, des maisons de retraite, des maisons d'accueil spécialisées pour polyhandicapés, des maisons pour autistes, d'accompagnement dans les grandes pandémies pour essayer de faire reculer les conséquences de ces pandémies, que ce soit le sida ou la tuberculose. Et dernièrement, je dirais même depuis les années 80, une participation encore plus importante dans la partie qui concernait les gens pauvres, qui sont sans domicile fixe, qui sont un peu rejetés par la société. Eh bien, toute cette précarité est devenue un vecteur très important. On est resté très présent sur le soin, mais aujourd'hui, l'accompagnement dans la précarité est devenu une obligation d'intérêt.
Dans quel pays avez-vous souhaité concentrer vos actions ces derniers mois ?
Dernièrement, la Syrie. Là, nous sommes vraiment dans le domaine dit de l'urgence, où ces conflits qui nous paraissent tellement loin, qui paraissent sans cesse se renouveler, sans période de repos, des femmes violentées, des populations déplacées, eh bien, nous avons pris une place d'accompagnement pour essayer de rassurer ces populations et de faire en sorte qu'il y ait des soins et un apport d'aide à ces populations. Nous sommes, bien sûr, préoccupés par toutes les populations qui ont été déplacées et c'est pourquoi nous venons en aide, notamment en Turquie et en Jordanie, grâce, entre autres, à nos amis libanais qui sont sur place et qui développent plusieurs activités, alors elles, à plus longue durée, qui sont des centres de soins ou des centres d'accueil.
Autre pays où vous êtes particulièrement actif, la République démocratique du Congo.
Oui, vous savez que ce vaste pays vit des conflits depuis maintenant un certain nombre d'années, notamment dans toute cette région à l'est, où il y a eu des déplacements de population et où l'État, entité territoriale, a baissé les bras. Il est important, je crois, de faire partie de ces organisations qui sont supranationales. C'est la souveraineté de l'ordre qui permet de porter d'aide aux populations qui sont déplacées. Que ce soit la Syrie ou le Congo, eh bien c'est pour venir en aide de ces populations où l'État, où l'emprise régalienne d'un État a perdu ou a baissé les bras ou ne peut plus agir en tant que tel.
L'Ordre de Malte a également des missions d'observateurs permanents auprès des Nations Unies et d'organisations internationales. À quel niveau se situe sa contribution ?
Son rôle, c'est d'être toujours présent, ne défendant absolument pas un intérêt d'État. L'autre jour, j'écoutais un diplomate qui disait, certes, l'Ordre n'a pas de territoire, l'Ordre n'a pas de population, comment peut-on considérer que l'ordre a un aspect souverain ? Eh bien, j'ai entendu une réponse qui était frappée de bon sens. Eh bien, l'ordre a un territoire et l'ordre a une population. Sa population, ce sont tous ceux qui sont oubliés, tous ceux qui sont dans la rue, tous ceux qui sont malades. Et son territoire, eh bien, c'est là où les États sont incapables ou ont abandonné d'aider ces populations. Notre mission est malheureusement sans fin. C'est une mission de la main tendue et de pouvoir mettre au bout de nos doigts eh bien, non seulement nos compétences, notre professionnalisme, mais aussi ce regard très humain, ce regard du cœur, pour certains le regard de l'âme, pour servir nos frères souffrants.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. Et pour parler encore de l'Ordre de Malte, saluons cette initiative. L'Ordre de Malte France organise du 13 février au 30 mars prochain l'opération Petit-Déj en Carême. Cette cinquième édition entend mobiliser les jeunes de 6 à 18 ans afin d'offrir des petits-déjeuners aux plus démunis. Du primaire au lycée, dans les groupes de catéchisme, d'aumônerie et les différents mouvements de scoutisme, les jeunes seront mobilisés pour collecter des dons et des denrées alimentaires non périssables, confitures, gâteaux secs, café, sucre ou lait. L'objectif de cette campagne 2013, offrir 40 000 petits déjeuners qui seront servis aux sans-abri par les bénévoles de l'Ordre de Malte. Vendredi soir, et comme il le fait chaque année, le pape, qui est aussi l'évêque de Rome, faut-il le rappeler, s'est rendu au séminaire majeur de la ville. Devant 190 étudiants, les 5 séminaires de la capitale italienne réunis au palais du Latran, Benoît XVI a affirmé dans un discours improvisé de 30 minutes, sans aucune note ni support, que malgré les chutes graves et dangereuses, l'arbre de l'Église n'est pas mourant, car l'Église, a-t-il dit, est l'arbre de Dieu qui vit pour toujours et porte en lui l'éternité. Le pape qui n'a pas ignoré non plus les persécutions dont les chrétiens font l'objet. Ces chrétiens qui forment le peuple le plus persécuté, a-t-il dit, parce qu'ils sont non conformes contre les tendances de l'égoïsme et du matérialisme. Bien qu'ayant contribué à la formation de la culture occidentale, les chrétiens, a-t-il rappelé, tout en étant chez eux, vivent depuis toujours en minorité comme des étrangers. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet www.radiovaticana.va. Il est temps de retrouver notre rubrique du samedi, Livre pour Dieu, animé par sœur Catherine Aubin. Certaines paroles choc de l'Évangile sont des paroles difficiles, drastiques, dures à entendre. Les paroles dérangeantes de Jésus, faut-il les prendre à la lettre? Sans les édulcorer ni les contourner, Michel Wackenheim en examine une vingtaine dans son dernier livre, dont le titre est « Qui sont ma mère et mes frères ? Les intrigantes paroles de Jésus ». Un ouvrage paru aux éditions du Cerf. L'auteur nous montre comment ces paroles renforcent la foi, l'espérance et la charité et aident à mieux vivre une nouvelle étonnamment bonne pour qui sait l'accueillir avec un cœur de pauvre.
Michel Wackenheim, votre dernier livre s'appelle « Qui sont ma mère et mes frères ? Les intrigantes paroles de Jésus ». Pourquoi ce livre ? À qui ce livre ?
De tout temps impressionné par un certain nombre de paroles de Jésus. Et ces paroles, souvent, on les escamote, on n'en parle pas trop, on dit « Oh, c'est des paroles un peu difficiles, passons à autre chose ». Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire « Mais enfin, c'est pas possible que Jésus se soit exprimé comme ça, comment peut-il parler de la sorte ?» Et Jésus a été un véritable prophète qui nous amène plus loin.
Quelles sont les paroles qui vous ont, depuis l'enfance, qui vous ont intrigué, qui vous ont percuté ?
Il y en a au moins une vingtaine, et ce sont les paroles que je rappelle dans ce livre. Il y a évidemment cette parole... Déjà tout petit, j'étais choqué parce que j'avais un grand amour pour ma maman, bien sûr, et quand je vois Jésus qui, au chapitre 2 de Saint Jean, répond « Que me veux-tu, femme ?» J'ai toujours été très, très surpris, parfois même un peu interloqué. Je me suis dit « Mais enfin, comment a-t-il pu parler comme ça à la Vierge Marie ?» Voilà une parole qu'il faut bien resituer dans son contexte pour bien la comprendre et surtout pour ne pas la travestir.
Dans votre livre, vous commencez par une parole qui nous bouleverse, qui nous touche beaucoup. « Quiconque se met en colère contre son frère en répondra en tribunal. » Expliquez-nous.
Oui, c'est une parole évidemment qui nous surprend parce que nous arrivons à tous de traiter quelqu'un d'imbécile ou de fou. Les paroles de colère ne sont pas si insignifiants que cela. Et ici, je crois qu'il faut se rappeler ce que dit Saint Jean dans sa première lettre. « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Mépriser ses frères, fût-ce par une infime méchanceté, c'est mépriser Dieu. Et en langage biblique, c'est s'exclure du royaume de Dieu et prendre une route qui mène au malheur. » Au fond, Jésus, dans ses paroles, nous invite à très grand respect de nos frères et de quelques frères que ce soit.
Vous dites aussi, Michel Wackenheim, que l'important, c'est ce qui se passe dans le cœur. Et vous le répétez pour une autre parole, « Si ta main entraîne ta chute, coupe-la ».
Oui, il est sûr que chacun de nous doit voir ce qui, au fond, nous rend infidèles à la parole de Jésus. Si ce sont les mains, si ce sont les yeux, si c'est la bouche, ben il faut faire quelque chose pour que ma main ne fasse pas ce qu'elle ne doit pas faire, ou que ma bouche ne dise pas ce qu'elle ne doit pas dire.
Jésus est exigeant et chacune de ses paroles nous ramène au cœur de l'Évangile et à notre vie intérieure qui doit être en harmonie avec celle de Jésus.
Donc finalement, les paroles fortes de Jésus ne sont jamais des paroles d'accusation. Même la parole que Jésus dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan ».
Ce sont des paroles qui, au fond, si je puis employer cette expression un peu facile, qui doivent nous réveiller. C'est ça que veut faire Jésus. Il ne veut surtout pas nous condamner, bien sûr, et d'ailleurs il ne condamne jamais personne. Il les révèle à eux-mêmes et il les remet debout. Ces paroles, c'est comme des paroles qui doivent produire un électrochoc. Vous savez, quand on est choqué, on dort plus, on est réveillé.
Finalement, au lieu d'être des paroles dures, c'est une autre forme d'encouragement.
Oui, vous avez tout à fait raison. Jésus est quelqu'un qui, loin de nous condamner, nous donne courage et nous conduit même à être audacieux, imaginatifs.
Comme chaque samedi, avant de nous quitter, nous avons rendez-vous avec le commentaire de l'Évangile du Père Pascal Montavite. Ce dimanche, le cinquième du temps ordinaire est tiré de Saint-Luc au chapitre 5, où Jésus s'invite dans la barque de Simon-Pierre et lui demande d'avancer au large.
L'Évangile de ce cinquième dimanche du temps ordinaire est certainement l'un des passages du Nouveau Testament qui exprime au mieux ce qu'est l'Église voulue et fondée par Jésus. Tout d'abord, face à la foule qui le presse pour écouter la parole de Dieu, Jésus monte dans une barque, s'assied, puis enseigne. Les pères considèrent que la barque représente l'Église. Jésus s'y tient assis, signifiant ainsi l'autorité de sa parole. La parole du salut, mystérieusement et malgré la faiblesse de ceux qui l'ont transmise jusqu'à nos jours, est confiée à l'Église représentée par une barque. Une barque, c'est fragile. Elle peut prendre l'eau, être renversée ou tout simplement s'égarer. Mais cela n'arrive pas, car Jésus y est assis. Monter dans la barque, comme le fait Pierre, c'est quitter la terre pour se tenir près de Jésus. C'est accepter de le suivre partout où il va, sans savoir où il va nous mener. Un deuxième enseignement de cet évangile vient du dialogue entre Jésus et Pierre. Tout d'abord, Jésus lui demande d'avancer au large. Monter dans la barque n'est donc pas suffisant, faut-il encore partir? Accepter de perdre ses repères, ses attaches, pour entendre pleinement la parole de Jésus. Avancer au large, c'est prendre le risque d'être entouré par les eaux, ce qui pourrait signifier la mort. La seule sécurité, c'est Jésus, assis dans la barque. Pierre pose donc un acte de foi, il avance au large. Mais il y a plus encore. Jésus lui demande maintenant de jeter les filets pour prendre du poisson alors qu'il a déjà peiné en vain toute la nuit. Pour porter du fruit, il faut donc avancer au large, c'est-à-dire quitter ses repères pour suivre Jésus, mais il faut aussi jeter les filets alors que cela semble peine perdue. Pierre exprime sa surprise car il ne comprend pas la logique de Jésus. Mais il obéit. Jésus nous surprend. Son enseignement nous dépasse et bien des fois nous pouvons nous interroger sur la folie que représente la parole de Jésus. Mais cette folie de Dieu dépasse la sagesse des hommes. Enfin, lorsque Pierre réalise le miracle qui est en train de se produire, il tombe aux pieds de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur ». Pierre voit Jésus à l'œuvre, non seulement en parole, mais aussi en acte. Il réalise alors la toute-puissance de Dieu. Il mesure l'écart qui le sépare de Jésus, Fils de Dieu, le Messie attendu par Israël. Cette grâce de lucidité sur soi-même, cette grâce que reçoit Pierre au lac de Génézareth, nous pouvons la demander aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Elle est synonyme de liberté. En effet, lorsque l'homme se reconnaît comme un être imparfait face à Dieu qui est parfait, il peut alors goûter sa miséricorde et réaliser tout l'amour que Dieu lui donne. Pierre est maintenant prêt à recevoir un appel spécifique. Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. En ce dimanche, nous sommes nous aussi invités à monter dans la barque avec Jésus, c'est-à-dire à mettre notre confiance en lui, sans craindre la tempête qui pourrait surgir. Nous sommes aussi appelés à poser des actes de foi pour répondre aux paroles de Jésus qui nous invite à lancer les filets alors que cela semble vain. Le bonheur de Pierre, notre bonheur, c'est d'être proche de Jésus dans la barque.
Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.